Ndinga News, tout de suite le journal. Le journal sur Ndinga News.
Ndinga News, le journal.
Bienvenue fidèles auditeurs pour cette édition du journal, la présentation Île-de-France en Wilondja. Plus de 5 mois déjà, les habitants du quartier Tricot sont privés d'accès à l'eau potable. Ils craignent pour leur vie suite à l'utilisation d'une eau impropre. Les ménages parcourent de longues distances pour s'approvisionner. Ces derniers plaident pour la mise en œuvre urgente d'une solution palliative afin de préserver les vies des gens contre les maladies d'origine hydrique. Pendant ce temps, les tanks d'eau installés dans ces milieux pour les ravitailler est en panne. Nous allons suivre les reportages de Jean-Robert Ngoï rendu par Jérôme Batangé. Puis, un cas de suicide par pendaison vient d'être signalé à Manono. Il s'agit d'un jeune garçon de 22 ans qui s'est tué pour des raisons inconnues. Un autre cas de suicide par pendaison a été enregistré l'an passé, le 30 juin, au village Louba, à 10 km de Manono Centre. Une femme de 47 ans s'était ôté la vie suite à un litige des limites des champs agricoles. Nous en dira dans un instant Noé Mwamba. Un exploitant artisanal de minerais est mort lundi autour des 14h dans l'éboulement d'un puits de gisement de cassiterite dans le village Kanunka. Ceci se trouve à Malembankulu, au sud-est de Manono. Bienvenue à tous. Les habitants du quartier Tricot demandent aux autorités de pallier au problème des pénuries d'eau potable dans cette partie. De nombreux foyers sont privés de cette denrée depuis environ 5 mois. Le seul tank qui ravitaillait la communauté en eau potable est hors service. Suivons les reportages de Jean-Robert Ngoï rendu par Jérôme Batangé en studio.
Cette situation inquiète la population de cette contrée. Constatée depuis plus de 5 mois, l'eau consommée par ses habitants provient des différentes sources non aménagées et cela est causé suite au temps où la population s'est ravitaillée en eau potable qui est tombée en panne, nous a confirmé les chefs des quartiers.
Une femme qui l'a cherché l'eau à 50 ou 80 mètres, qu'elle se croise avec les bandits, comment ça se rase? Alors nous voyons comme si nous sommes abandonnés. Nous demandons aux autorités de veiller au problème de l'eau potable.
À en croire les propos de ses habitants, aucune solution n'est encore envisagée pour la réparation du tank. Ils sollicitent au service attitré de se pencher à cette situation pour éviter les maladies hydriques.
Au Kasaï oriental, bientôt la ville de Mbujimayi doit être suffisamment approvisionnée en courant électrique et en eau potable. Le ministre provincial de l'énergie du Kasaï oriental rassure la réalisation des projets favorisant la desserte du courant et de l'eau au chef-lieu de la province. Explication de notre correspondant Emmanuel Kalonji depuis Mbujimayi.
Depuis des décennies, le chef-lieu de la province du Kasaï oriental connaît avec acuité la carence en eau potable et en électricité. Généralement, durant les 3 mois de la saison sèche, les ménagères connaissent des difficultés pour s'approvisionner en ces denrées vitales. Les femmes et les jeunes effectuent des longues distances pour puiser l'eau des rivières, mal propre à la consommation, ou alors l'eau est vendue rarement au robinet à Chières, soit un bidon de 20 litres à environ 1500 francs congolais. Pour l'heure, le ministre provincial de l'énergie au Kasaï oriental rassure qu'il y a eu une lueur d'espoir avec le projet de la construction du mini-barrage financé par la banque allemande KfW.
Et la solution avait été déjà envisagée, notamment avec un financement de KfW, qui est une banque allemande, et qui avait accepté d'aménager un des sites de Tchala qui appartient à la MIBA pour pouvoir donner l'électricité à la régie des eaux. Ce financement de plus ou moins 20 millions d'euros à ce jour, et la province a fait sa part lorsqu'elle s'est impliquée pour savoir ça bloque à quoi. À ce jour, elle est en possession de documents de propriété de la MIBA sur lesquels on doit désigner la partie. C'est maintenant au niveau national, mais la province a fait sa part.
Dans la même marge, le ministre Lievin Bouyamba a précisé également que le courant produit à Toubi-Toubidi par la société chinoise d'investissement minier Sassim, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, pourra bientôt desservir la ville de Mbujimayi. Lievin Bouyamba.
Le transport du courant de Toubi-Toubidi, ici il faut corriger que ce n'est pas 4 MW, c'est 3 MW, que c'était un don de la Sassim à la province, mais qui avait conditionné cela au transport de la province. La province a signé un protocole d'accord avec la...
En attendant, plusieurs quartiers de la ville sont plongés dans le noir. Des particuliers et d'autres entreprises sont victimes de ce manque criant du courant électrique qui est d'ailleurs un luxe pour nombreux. Emmanuel Kalonji, Mbujimayi pour la radio Ndenganyo.
Vivez l'actualité en continu sur Ndenga News sur 104.0 MHz. Votre radio de proximité.
Dans le cadre de la transition énergétique en RDC, le groupe australien Fortescue Future Industries a présenté son rapport sur l'état d'avancement du projet à la primature. Cela en vue d'aboutir à la signature d'un accord de coopération sur la production de l'hydrogène vert à partir du projet Grand Inga. Correspondance avec Guillaume Ngoyamissi depuis Kinshasa.
Évoluant dans le mine en Australie, le FFI, Fortescue Future Industries, veut se lancer en République démocratique du Congo, principalement dans la production de l'hydrogène vert, un produit adapté pour la transition énergétique, la production de l'ammoniac vert et le traitement des métaux verts pour la consommation locale et pour l'exportation. Il compte produire 70 MW d'énergie verte au total, soit 15 du barrage de Pioca, 15 du barrage de Matadi et 40 du Grand Inga. Madame Gilly, directrice générale de FFI, l'a déclaré à la presse au sortir de cette séance.
L'économie congolaise, l'économie africaine est une grosse contribution de la décarbonation du monde. Le sort du monde entier est en train de se jouer en République démocratique du Congo. Et en même temps que nous créons ce grand projet, il est très important que nous nous assurions que les communautés, les populations congolaises bénéficient sérieusement des opportunités qui seront créées aussi bien au niveau de la formation, de l'éducation, mais également des opportunités en termes d'entreprises qui peuvent saisir des contrats.
Aussitôt, les contrats seront signés. Le rythme des travaux va s'accélérer pour être en mesure de faire du développement au bénéfice de tous, rassure le staff de FFI. Tout en gardant le leadership du projet Grand Inga, qui englobe Inga 3 et pèse plus de 40 milliards de dollars américains, le FFI reste ouvert aux autres partenaires qui peuvent respecter le même principe que lui, c'est-à-dire travailler avec intégrité et employer des Congolais et pas amener des ouvriers des autres pays, former les Congolais et respecter les lois du pays.
On parle de changement de paradigme. Donc on ne peut pas seulement produire de l'électricité pour les consommer directement, mais c'est plutôt l'électricité devient maintenant un produit marchand qui va faciliter, n'est-ce pas, à la production d'autres produits de valeur ajoutée.
Il s'y est de souligner que l'Australie a déjà mené les études préliminaires pour près de 25 millions de dollars américains. Il a déjà des bureaux à Kinshasa où son staff dirigeant effectue son 44e déplacement avant de signer le contrat. Le FFI est un groupe australien qui fait partie du FMG, Fortescue Metal Group. Il justifie de grandes capacités financières suffisantes pour financer n'importe quel projet. Depuis Kinshasa, Guillaume Ngoyamissi pour la radio Ndenga FM.
Vous écoutez Ndenga News sur 104.0 MHz, votre radio de proximité. Kabalo, Kalemi, Kongolo, Manono, Moba, Nyuzu et partout en République démocratique du Congo. Voici votre chaîne d'information.
Puis un jeune homme de 22 ans d'âge s'est suicidé par pendaison lundi à Manono. Les faits se sont déroulés sur avenue Saint-Doué dans le quartier Louvois. Pendant ce temps, personne n'est en mesure d'avancer les raisons exactes de ces gestes extrêmes. Nové Mwamba pour nous en dire long.
Il était trouvé accroché entre la charpente et les pavements de la maison à côté du lit dans la chambre à coucher de sa sœur, chez laquelle ce dernier était hébergé depuis un certain temps, alors que sa sœur était locataire de la maison où cet homme s'était pendu. Le badaud et quelques membres de la famille trouvés sur place, personne d'entre eux n'a expliqué les raisons qui ont poussé ces derniers de rompre volontairement sa vie sur cette terre, car rien n'était préalablement suspecté sur sa face qui pourrait indiquer son amertume, a témoigné sa sœur. D'autres sources non confirmées par les membres de sa famille parlent d'une certaine déception qu'il aurait subie de la part de ses amis qui l'auraient copieusement tabassé pendant leur bagarre à la veille de ce lundi. Donc, jusqu'à présent, rien n'a filtré sur les réelles raisons de son suicide. Et son corps était inhumé ce même lundi aux environs de 20h par les membres de sa famille et amis de son quartier. De Manono, Noé Mwamba pour Ndenga FM.
Un autre cas de suicide par pendaison avait été enregistré l'an passé, le 30 juin, au village Louba, à 10 km de Manono Centre. Une femme de 47 ans s'était ôté la vie suite à un litige de limite des champs agricoles. Dans le Haut-Lomami cette fois-ci, un exploitant artisanal des minerais est mort lundi autour des 14h dans l'éboulement d'un puits de gisement de cassitérite dans le village Kanunka. Ceci se trouve à Malimankulu au sud-est de Manono. La victime travaillait dans ce puits avec sa sœur quand soudain une chute de terre s'est déclarée. La sœur a survécu alors que son frère est mort enseveli sous la terre suite au retard du secours. Noé Mwamba est notre correspondant dans la contrée. Voici son reportage une fois de plus.
Le creuseur décédé était avec sa sœur dans les mêmes puits d'exploitation de la cassitérite lorsqu'une masse de terre les avait surpris en pleine excavation. Malheureusement, ces jeunes hommes, père d'un enfant, étaient seuls asphyxiés et engloutis par les sables dans les eaux qui étaient mélangées aux gandous blanches et qui ont imposé sur les champs le départ du souffle de vie de la victime vers un autre lieu en dehors de son corps. C'était maintenant grâce à sa sœur rescapée qui criait secours aux autres creuseurs. Par malheur, ces derniers l'avaient exhumé de la boue après qu'il était déjà mort. Pour terminer, signalons que Kanunka est une localité du territoire de Malimbankulu, située à 35 km de Manono centre et qui regorge plusieurs personnes venues de différents endroits, venues de différents territoires pour une exploitation artisanale de la cassitérite. De Manono, Noé Mwamba pour Ndenga FM.
L'actualité en direct de votre proche milieu, Ndenga News sur 104.0 MHz tout près de ses auditeurs.
Les organisations des sociétés civiles du Maniema condamnent les attaques rwandaises en RDC. Les structures citoyennes des sept provinces pointent le double jeu auquel s'adonne Kigali, se camouflant derrière le mouvement révolutionnaire à l'instar du M23. De leur côté, les autorités du Rwanda, pays voisin, continuent de nier toute implication dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivons ce reportage d'Arija Saïdou Ruth.
La société civile Force Vive et Coordination Provinciale du Maniema condamne avec la dernière énergie l'agression de la RDC par les Rwandais, longtemps similée au camouflé derrière les mouvements du 23 mars M23 en sigle. C'est l'essentiel d'une déclaration rendue publique le lundi 30 mai 2022 par cette structure citoyenne, tout en présentant sa compassion à la population de la province du Nord Kivu. La SOCIMA note avec satisfaction la reconquête par les FARDC de tous les villages hier occupés par les agresseurs de la RDC. On écoute à ce sujet Maître Stéphane Kamundala, président de la coordination de la société civile Force Vive du Maniema.
La SOCIMA présente à la fois ses vives condoléances, ses compassions, ainsi que sa solidarité respectivement aux militaires qui sont tombés au front pour l'intérêt supérieur de la patrie, aux civils qui enregistrent jusqu'à ces jours des morts par balle dans leur famille et situés dans leur village d'origine, aux multiples Congolais qui sont contraints de passer leurs nuits entières à la Belle Étoile et Saint, en dépit des intempéries auxquelles ils sont exposés dans les endroits où ils sont, malgré eux, obligés de vivre en qualité de déplacés. L'associement note avec satisfaction la reconquête par nos vaillantes forces armées de la RDC de tous les villages hier occupés par les agresseurs de notre pays, à savoir les militaires appartenant à l'armée rwandaise, et rassure à ces dernières le total soutien de la population de l'ensemble de la province du Maniema.
Depuis Kindu, pour la radio Ndenga FM.
Ndenga News sur l'ensemble des territoires de la province du Tanganyika jusque dans la région du Grand Lac. La meilleure de l'information des proximités.
Enfin, à Ouvira, dans le sud Kivu, plus de 1000 ménages de déplacés ont reçu lundi une aide alimentaire et non alimentaire. Cette ville a été touchée par les vagues de déplacements des familles en provenance des villages des hauts et moyens plateaux de Fizi, Mwenga, Itombwe et Ouvira. La distribution de l'assistance s'est déroulée sous la houlette des représentants de l'État. Cela, c'est la donation de l'organisation Women of Faith. Le reportage de Françoise Boukourou, rendu en studio par Paul Ilunga Boniface.
Ces déplacés internes bénéficient de la part de l'ONG Woman of Faith de vivre et non vivre dans chaque ménage. Cette assistance composée du riz, de la farine de maïs, d'huile végétale, du savon, du sel, du sucre, des pagnes et d'argent en espèces leur permet de vivre dignement. La coordonnatrice de Woman of Faith, Madame Eliane Banzé, nous parle ici des objectifs visés par son organisation.
Nous sommes venus au secours aux déplacés d'Ouvira pour soulager tant soit peu le besoin de bénéficiaires. Nous avons écouté des cris d'alarme de déplacés dans des médias et nous sommes dit nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons essayé de contacter,
Cette aide humanitaire est soutenue par l'église Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Son représentant à Uvira, Boshike Christian, donne ses impressions.
On a apprécié le travail parce qu'on a assisté du début de leur identification de cette organisation et on a eu à participer comme aujourd'hui dans leur activité de distribution de vivres et non vivres. Et de la part de l'église, comme nous sommes des témoins aussi, on a eu à témoigner vraiment le travail était bien passé.
De leur côté, les bénéficiaires remercient l'ONG Women of Faith pour cette assistance humanitaire.
En tout cas, tu n'as pas de Mungu, muendele mwai maneno mususao batu.
Oui, nous kutuaje. Kutuaje ambaga. Kula mshiba numwenu.
Furahi sana, naomba Mungu azidi kuwabariki, awaongezee kwenye hii natoka, wazidi kuwa na moyo wa upendo.
Pour sa part, la chef de division unique de la mairie d'Uvira, qui a procédé au lancement de ce programme de distribution de cette assistance, a dit dans son allocution que cette aide intervient au moment opportun. Jean-Dar Ketchakoupiroa précise que ses déplacés traversent une vie difficile durant ces mois.
C'est la fin de ce journal. Il défend son Wilonja était à la présentation. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.